Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Difficile d'imaginer qu'encore aujourd'hui, une bonne partie des fumeurs de la planète ignore les méfaits du tabac, les risques liés à cette habitude, alors que dans le monde, une personne meurt toutes les 6 secondes de ce petit plaisir devenu au fil des mois et des années un besoin irrépressible. Le tabagisme, une épidémie selon l'OMS, qui provoque le décès d'un adulte sur 10. Avec cette vérité aussi simple que glaçante, le tabac tue la moitié de ceux qui en consomment. Maladies cardiovasculaires, respiratoires, cancer du poumon, cela représente près de 7 millions de morts chaque année dans le monde. Et ce nombre de décès devrait augmenter d'un tiers d'ici 2030. Le tabac qui absorbe près de 6% des dépenses de santé. Alors au-delà de ces chiffres terribles, il y a des initiatives pour en finir avec cette addiction, des démarches positives. C'est en ce moment en France la deuxième édition du Mois sans tabac, une opération nationale pour inciter de façon constructive les fumeurs à arrêter le tabac en comptant sur un élan collectif. Avec nous en studio, le professeur Daniel Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la Société francophone de tabacologie, ancien chef de service cardiologie à la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital parisien. Également avec nous en studio, le docteur Nicolas Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pharmacien spécialisé en santé publique et en addictologie, directeur du réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, le RESPAD. En deuxième partie d'émission, nous serons en ligne avec le Burkina Faso, avec le docteur Georges Ouédraogo, pneumologue, tabacologue au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, dont il est le coordinateur de l'unité de sevrage tabagique. Et puis pour conclure ce numéro de Priorité Santé, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo. Et là aussi, on parlera des bienfaits de l'arrêt du tabac. Cette émission, c'est bien sûr la vôtre. Vous pouvez nous joindre, nous appeler. Le numéro, c'est le 33 84 22 75 75. Le tabac, c'est l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur la santé mondiale. Verdict de l'OMS. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, professeur Daniel Thomas?
Oui, c'est la première cause de mortalité évitable dans tous les domaines, dans le domaine du cancer, dans le domaine des maladies cardiovasculaires et en général sur la mortalité en général. C'est la première cause de mortalité que l'on peut éviter en arrêtant de fumer ou en ne commençant pas à fumer.
Est-ce que le regard de la société, de nos sociétés, peut-être qu'il faut différencier certaines régions du monde, en tout cas, est-ce que ce regard sur les fumeurs a changé?
Alors, le regard a un petit peu changé dans les pays où l'information est vraiment prégnante et importante, comme les pays industrialisés. C'est vrai que beaucoup de pays sont encore avec une information limitée, voire de la désinformation sur le sujet, qui fait que l'expansion du tabagisme n'est pas terminée dans certains pays, voire même en augmentation, alors que dans la plupart des pays, quand même, elle est en diminution.
Alors, c'est le cœur de notre émission aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui quand on veut arrêter de fumer, docteur Nicolas Bonnet?
La dépendance au tabac, en fait, est une interaction entre d'abord un individu, une personne, le produit, donc la cigarette, hein, donc la consommation de tabac telle qu'elle est présente actuellement, et en même temps l'environnement également qui entoure l'individu. Donc si on veut avoir une vraie action finalement sur la dépendance au tabac, il faut pouvoir agir sur ces trois dimensions-là. Donc il faut prendre en considération la nicotine, le produit actif dans la cigarette, par des traitements, par exemple de substitution nicotinique ou par des vaporisateurs personnels, appelés également cigarettes électroniques. Une action également sur l'individu, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération sa dimension sociale, la façon dont il gère ses habitudes au quotidien. Donc là-dessus, on va travailler avec notamment des thérapies cognitivo-comportementales pour aider la personne fumeuse, du coup, à se détacher des comportements associés au tabagisme.
C'est quoi ces comportements, concrètement?
Par exemple, clairement, c'est par exemple des habitudes, des rituels qui sont ceux d'associer le tabac au café, à la consommation d'alcool, à la pause déjeuner, etc. Donc ouais, toutes ces
situations. Et toutes ces tentations, ces situations où justement on est susceptible de recraquer.
En tout cas, on les associe, on a associé la consommation de tabac de façon quasiment inconsciente à différents rituels au cours de la journée qui sont, voilà, ces situations qu'on vient de décrire à l'instant. Et donc, à chaque fois que ces situations vont se répéter, on aura une envie de reconsommer une cigarette. Donc, il faut pouvoir dissocier ces situations. Il faut pouvoir, à un moment donné, arriver à boire un café sans fumer une cigarette, boire un verre de bière ou un verre de vin sans fumer une cigarette, finir un repas sans fumer une cigarette, etc., etc. Et ça, ça se fait très bien, mais ça se fait donc avec différentes thérapies qu'on appelle donc les thérapies notamment cognitivo-comportementales. Et la troisième dimension, c'est la dimension environnementale. Et la dimension environnementale, elle va passer notamment par des mesures législatives, répressives, d'exclusion du tabagisme des lieux publics, de dénormalisation du tabac, d'interdiction de la vente aux mineurs, par exemple.
Alors tout à l'heure, on citait des chiffres effrayants. Hein. Le tabac, le facteur de risque évitable, c'est très important, de cancer numéro un. On estime que sans tabac, un quart de décès par cancer pourrait être évité. Docteur Nicolas Bonnet, pourquoi fume-t-on alors que l'on sait que c'est mauvais?
La question que vous posez, c'est la question de l'entrée dans le tabagisme. Donc à un moment donné, l'entrée dans le tabagisme, elle se fait d'abord, elle se fait tôt. Hein. On va se rappeler en tout cas en France, les données qu'on a, c'est que déjà en fin de collège, on a déjà 20 à 30% des collégiens qui ont déjà essayé le tabagisme. Et en fin de lycée, à 17 ans, c'est près d'un lycéen sur deux qui a déjà essayé le tabac et plus de 30% qui sont déjà dans un tabagisme quotidien. Donc on a déjà à 17 ans ce corpus de fumeurs qui est déjà présent. Pourquoi on se met à fumer ? Pour des raisons sociales, pour des raisons de franchissement de lignes, enfin de prise de risque, à un moment donné une sorte d'émancipation, et puis aussi parce qu'on est très largement influencé par les médias, par la communication faite par les cigarettiers, de façon plus ou moins directe ou indirecte, hein, puisque les cigarettiers, après l'interdiction de la publicité, maintenant ont développé différentes actions également pour pouvoir sans arrêt continuer à susciter cette envie, ce besoin de fumer, ou en tout cas de s'initier au tabagisme. Et comme tout à l'heure on l'a rappelé, le tabagisme, c'est un produit pour lequel la dépendance est très rapide. Donc du coup, l'initiation au tabagisme est quasiment déjà le reflet de ce qui sera ensuite la dépendance au tabagisme. Donc c'est pour ça que notre enjeu principal pour nous aujourd'hui en tant qu'acteurs de santé, c'est de vraiment freiner l'entrée dans le tabagisme à travers différentes méthodes de prévention.
Et précisément, vous êtes responsable de la consultation jeunes consommateurs, hein, du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié-Salpêtrière. On parlait de ce public très jeune. En France, il y a le paquet unique avec des images épouvantables, hein, sur les paquets de cigarettes, différentes affections, différentes maladies, des gros plans, de ce qu'il y a de pire qu'on peut, malgré tout, on achète ce paquet repoussant, on fume alors qu'on sait qu'il y a le cancer au bout. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes une fois qu'il a commencé en disant, mais bon, sans passer par un discours moralisateur, mais sur l'interroger sur ses motivations?
Vous avez rappelé le paquet neutre, hein, qui est mis en place en France et dans quelques pays maintenant depuis quelques temps. Paquet neutre avec donc du coup cet emballage normalisé qui permet, en tout cas dont l'idée permet de restreindre, de freiner un peu l'attraction visuelle des paquets de cigarettes habituels. Les jeunes, quand ils commencent à fumer, finalement ces images sur les paquets de cigarettes, ils n'en ont un peu que faire, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qui va être l'élément central finalement dans l'achat. L'idée est encore une fois juste de pouvoir accéder à un produit et transgresser plus ou moins une règle, ou en tout cas ou de se rapprocher de différents modèles qu'on a, des modèles d'artistes ou autres, ou de chanteurs qui consomment des cigarettes. Quand on est dans la consommation de tabac, ce que vous avez rappelé, ce qui est important, c'est de faire réfléchir à la consommation de tabac, de faire prendre conscience finalement des risques qu'il va y avoir, certes, à la consommation de tabac, mais également de pouvoir faire réfléchir aux avantages qu'on en a à en tirer. Je veux dire, enfin, on ne peut pas nous parler d'une drogue, puisque le tabac est une drogue, sans pouvoir parler avant tout des effets, ce qu'on appelle les méfaits. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire réfléchir le jeune sur ces différentes dimensions, et à un moment donné, le faire en le guidant, hein, le faire avancer sur ce cheminement qui est à un moment donné de faire un choix entre le produit qui va avoir davantage de méfaits ou le produit qui va juste lui apporter un effet bénéfique. Et donc cette réflexion, cette maturation qu'on va lui apporter au jeune, il va la faire de façon autonome en le responsabilisant. On appelle en fait ça la valorisation et le renforcement de la capacité personnelle à pouvoir y arriver, hein, puisque dans un changement de comportement, il y a la volonté, il y a le « je veux changer » ou « je veux arrêter » et puis il y a ce sentiment de dire « est-ce que j'en ai la capacité de pouvoir le faire ? Est-ce que je vais réussir ?» Et nous, notre travail, c'est avant tout de faire en sorte que le jeune puisse se rendre compte qu'il a la capacité de pouvoir réussir à arrêter la cigarette et surtout à affirmer qu'il a arrêté la cigarette.
Et que c'est fait et qu'on ne reviendra pas dessus. Approche positive, on va y revenir justement avec vous, professeur Daniel Thomas, pour mettre en avant, on a parlé des chiffres, de la mortalité, de la morbidité même de ce tabac. Comment est-ce que ça fait du bien au corps quand on arrête de fumer ?
Bien, tout d'abord, d'ailleurs, les fumeurs en ont conscience. Quand ils fument, ils ont des capacités physiques qui sont diminuées quelque part. Ils le savent, puisque ceux qui ont déjà essayé d'arrêter, qui ont parfois échoué, savent que quand ils avaient arrêté, Il respirait mieux, les aliments avaient du goût, ils avaient un odorat qui était revenu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les éléments effectivement de sensibilité positive et qui peuvent être mis en avant plus que les méfaits qui souvent sont plutôt paralysants et contre-productifs pour l'arrêt. Alors il faut connaître les méfaits bien entendu et je pense que la plupart des fumeurs les connaissent, ne serait-ce que parce que c'est marqué sur leur paquet de cigarettes. Ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent à trouver en eux-mêmes et essayer, comme ça vient d'être dit, qu'ils trouvent eux-mêmes l'élément positif qui va les faire évoluer vers l'arrêt du tabac. C'est pas ce que nous allons apporter de notre part qui va forcément être performant pour lui. Le fumeur doit trouver en lui des capacités, la volonté bien sûr, mais également les capacités de réussir et avec des éléments qui lui sont propres et qu'il va falloir avec lui d'essayer de trouver. Et c'est ces éléments-là qui vont lui permettre de réussir. Un exemple tout simple, par exemple le sportif jeune qui fume et qui pense que pour lui c'est pas grave parce qu'il fait du sport, ce qui est bien entendu une contre-vérité puisque ça forcément c'est un handicap et c'est un risque. Eh bien, ce qui va le plus le motiver, c'est finalement c'est la performance qu'il va avoir s'il arrête de fumer ou le confort qu'il va avoir dans son sport et qu'il n'a plus ou qu'il n'a jamais eu. Et ça peut être un élément beaucoup plus important que le risque de faire un infarctus ou un cancer dans l'avenir, qui pour lui est totalement virtuel et n'a pas tellement de sens
et de réalité,
de motivation. Voilà.
Professeur Daniel Thomas, docteur Nicolas Bonnet, on reste ensemble. On va justement voir ces différents parcours individuels puisqu'on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et cet appel de la Caraïbe, d'Haïti, en ligne avec nous, Neftali, bonjour. Neftali, bonjour. Et merci de nous appeler, il est très tôt chez vous à Port-au-Prince. Tout de suite, votre témoignage.
C'est une question. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut aider une amie à arrêter de fumer, qui fume depuis plus de 20 ans. Comment est-ce qu'on peut l'aider à arrêter de fumer sans la blâmer, sans lui dire et les discours de tous les jours, et si tu fumes, et ça va tuer. Comment est-ce qu'on peut l'aider sans la blâmer, quoi.
Une approche positive donc pour aider cette amie qui fume depuis une vingtaine d'années. Professeur Daniel Thomas.
Je pense qu'il y a... Il y a plein de, comme vient de le dire, les éléments sont très personnels. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle essaye de trouver en elle-même ce qui pourrait la plus la motiver. Je ne sais pas si, par exemple, vous me dites qu'elle a arrêté pendant sa grossesse, donc elle a des enfants. Et donc, moi, je pense que dans le domaine des éléments de motivation, un des éléments de motivation très forts sont les éléments affectifs. On va arrêter de fumer pour son conjoint, pour ses enfants. C'est encore beaucoup plus porteur.
Puisqu'il y a le tabagisme passif. Quand on fume à la maison, c'est mauvais pour l'environnement.
Il y a le tabagisme passif qui a un impact assurément très important sur l'entourage et en particulier les enfants. Donc voilà un élément qui, pour elle, peut-être être porteur. Donc en fait, c'est à elle de le sentir et de faire en sorte que ça soit pour elle l'élément majeur, plus que le risque qu'elle pourrait avoir par rapport à sa santé personnelle, mais de faire du bien aux autres en définitive. Et là, donc, finalement, ça va être forcément un élément de motivation plus important.
Neftali, donc, lui parler des enfants, de la famille et des risques qu'ils encourent peut-être eux aussi dans un environnement avec de la fumée de cigarettes. Merci beaucoup pour votre appel de Port-au-Prince. On va maintenant partir pour le Ghana. C'est Fadoul qui est en ligne. Bonjour Fadoul.
Bonjour.
Vous êtes en ligne d'Aflao, c'est juste à côté du Togo, on vous écoute.
Moi, mon problème est que j'ai commencé à fumer, ça fait environ 11 mois.
Et vous n'arrivez plus à arrêter maintenant? Vous avez une consommation régulière de cigarettes?
Oui, j'ai une consommation de cigarettes. Avant au moins 11 mois. Donc, chaque fois quand je décide d'arrêter, je fais au moins 3 jours, mais je n'y arrive pas.
Une question derrière ce témoignage de Fadoul, professeur Daniel Thomas. Est-ce que la durée de l'entrée dans le tabagisme a une influence sur la difficulté pour arrêter?
Alors, ce qui a le plus d'influence pour la difficulté à arrêter, c'est l'âge auquel on a commencé. Lorsqu'on commence à fumer de façon régulière avant 15 ans, par exemple, je veux dire que la dépendance a réussi à s'installer de façon beaucoup plus importante. Et donc ça peut être potentiellement plus difficile. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte. Et lorsque l'on a quelqu'un qui a commencé à fumer après 20 ans, par exemple, il est probable que souvent l'addiction n'est pas aussi forte que cela, même si elle peut l'être. Alors que quelqu'un qui a commencé à fumer avant 15 ans, il va falloir certainement, très probablement, et en particulier s'il y a eu plusieurs échecs, comme c'est le cas ici, avoir des moyens d'aide, et en l'occurrence une substitution nicotinique, de façon à compenser et à permettre de sortir de la cigarette sans souffrir et avec beaucoup plus d'assurance de réussir.
Docteur Nicolas Bonnet, on parle de cette substitution. Concrètement, vous pouvez nous décrire ces différents dispositifs, les patchs, les gommes, les chewing-gums, comment ça se passe exactement ?
La substitution nicotinique, c'est basé sur le principe suivant, c'est de remplacer donc la nicotine présente dans les cigarettes par une nicotine qu'on va considérer une nicotine propre, hein, médicamenteuse, dans différents types de médicaments. Alors on a différentes formes galéniques, hein, donc différents supports pour fournir cette nicotine. Il y a donc des patchs, effectivement, qu'on applique sur la peau, qu'on va laisser sur la peau en général toute la journée, voire enlever la nuit éventuellement, mais en tout cas qui peuvent rester entre 16 et 24 heures appliquées. Des formes orales, donc des comprimés à sucer ou des gommes à mâcher qui elles vont également délivrer de la nicotine. Et puis on a également maintenant des formes un peu plus élaborées en forme de spray également de nicotine qui peuvent être un complément. L'idée étant à chaque fois de pouvoir retrouver le profil de la cigarette. C'est-à-dire qu'on va donner de la nicotine par ces différentes formes pour faire en sorte de se rapprocher le plus possible de la quantité de nicotine qui était délivrée précédemment par la consommation de cigarettes.
Fadoul, vous êtes toujours en ligne. Est-ce que vous avez essayé justement des moyens de substitution lors de vos différents arrêts?
Oui, j'ai essayé le moyen du chewing-gum.
Oui, alors, il y a une chose très importante qui vient d'être soulignée par le docteur Bonnet, c'est la nécessité, lorsque l'on fait de la substitution nicotinique, c'est d'adapter la dose. C'est-à-dire que le fumeur, avec ses cigarettes, consomme une certaine dose de nicotine. Et c'est vrai que beaucoup d'échecs de cette substitution sont liés au fait que la dose a été standardisée.
C'est ce qu'on dit, par exemple, je fume un paquet, un demi-paquet.
Eh bien, ça peut être effectivement, alors l'équivalent en général, c'est un grand patch pour un paquet de cigarettes par jour, mais ça peut être tout à fait adapté pour certains fumeurs et absolument pas pour d'autres qui en possèdent besoin de beaucoup plus parce qu'ils fument leurs cigarettes de façon différente ou ils métabolisent la nicotine de façon différente en eux-mêmes. Donc, il faut surtout adapter la dose. C'est-à-dire que tant qu'on en a envie de fumer, une envie impérieuse de fumer et qu'on a de la substitution nicotinique, soit les patchs ou les formes buccales, tant qu'on a envie de fumer, il faut augmenter la dose suffisamment pour justement que cette envie disparaisse.
Et ça veut dire que ce n'est pas forcément limité dans le temps?
Alors, c'est pas non plus limité dans le temps. Classiquement, effectivement, il était rituel de faire ce traitement.
On faisait des cures.
Avec des doses, on faisait des cures, on faisait 3 mois avec des doses dégressives. Pour certains fumeurs, il faut que ça soit plus long, il faut que ça soit plus dégressif, que la dégressivité de dose soit plus longue. Et peut-être pour certains, d'ailleurs, qu'ils restent avec de la substitution nicotinique au long cours, en particulier avec des formes buccales, avec des gommes ou avec des pastilles de nicotine, pour parer justement ces risques de rechute qui sont parfois tardifs. C'est-à-dire que il y a ceux qui rechutent tout de suite et puis il y a ceux qui vont rechuter alors qu'ils ont arrêté la substitution et qui n'avaient pas de parade pour justement pallier cette envie impérieuse de fumer. Donc il faut rester avec la possibilité d'utiliser ces produits si c'était nécessaire.
Oh, merci beaucoup, Fadoul, de votre appel du Ghana. On va retrouver les auditeurs de RFI tout à l'heure, juste après les informations. Ce sera dans 3 minutes. Professeur Daniel Thomas, docteur Nicolas Bonnet, vous restez avec nous. On va parler, au-delà de ce mois sans tabac organisé en France, deuxième mois sans tabac, des méthodes pour arrêter de fumer. Vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de Priorité Santé. Novembre, mois sans tabac, les bonnes raisons et les bonnes pistes pour arrêter de fumer. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Daniel Thomas, ancien chef de service cardiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris, porte-parole de la Société francophone de tabacologie, et du docteur Nicolas Bonnet, pharmacien spécialisé en santé publique et en addictologie, directeur du réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions. Professeur Daniel Thomas, moi sans tabac, pour certains c'est de la communication, mais auprès des personnes qui décident à ce moment-là d'arrêter de fumer, ça a un véritable effet. C'est quoi l'effet? C'est la décision? C'est l'engagement?
L'effet principal du mois sans tabac, c'est d'essayer de faire que le fumeur ne se sente pas seul. Hein, je veux dire que la plupart des fumeurs ont en tête qu'il faudrait qu'ils arrêtent de fumer. Et donc c'est une occasion pour eux de se sentir, disons, quelque sorte épaulés dans leurs décisions et de faire collectif. Et on sait très bien que quand on fait en équipe, on est toujours beaucoup plus performant que lorsqu'on œuvre tout seul. Parce qu'il y a les compétences et puis il y a surtout le soutien. Et c'est pareil, quand on arrête de fumer, c'est important d'en parler à son entourage. Je veux dire que là, c'est encore une échelle plus importante, puisque c'est à l'échelle de la nation, puisque en France actuellement, ce mois sans tabac sollicite les fumeurs en leur disant, voilà, on peut vous aider à arrêter de fumer. Vous allez vous agréger à un groupe, à une équipe, dans laquelle vous pouvez vous identifier. Donc il y a différents types de d'équipes, il y a des choix qui sont disons un petit peu personnels et qui vont faire que les gens ensemble vont aller vers l'arrêt du tabac.
Et ça marche, ça prend, comme on dit trivialement,
il y a des chiffres. L'année dernière, puisque c'est la deuxième année que Mois sans tabac existe en France, c'est un modèle qui avait déjà été fait en Grande-Bretagne, et avec un résultat intéressant, c'est-à-dire qu'on avait montré que le fait d'arrêter de fumer pendant un mois, ce qui peut justement être le but de ce mois sans tabac, c'est d'essayer de tenir au moins un mois, ça multipliait par 5 les chances de rester non-fumeur. Donc c'est quand même assez impressionnant comme résultat, et c'est pour ça que c'était adopté en France. Et donc c'est la deuxième année. L'année dernière, il y a plusieurs dizaines, près de 200 000 personnes qui se sont inscrites dans cette perspective justement d'arrêter pendant le mois sans tabac. Alors on n'a pas encore les résultats définitifs pour savoir quel était le résultat de ce qui s'est passé l'année dernière sur le nombre de fumeurs, etc. On l'aura dans le courant de l'année. On renouvelle cette année avec une ampleur beaucoup plus importante, de façon à essayer de nouveau d'essayer d'aider ces fumeurs à arrêter de fumer en leur proposant d'agir ensemble.
Alors, docteur Nicolas Bonnet, on parlait tout à l'heure des différents dispositifs, substituts, décisions, thérapie comportementale et aussi législation pour essayer d'amplifier le mouvement, que davantage de personnes s'arrêtent de fumer. Il y a aussi la motivation dans certains espaces spécifiques, et vous y travaillez avec le réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, pour voir disparaître le tabac des lieux de santé. Comment se présente cette initiative ?
Faire reculer le tabagisme, c'est un enjeu majeur aujourd'hui de santé publique, on l'a rappelé, c'est un enjeu majeur de l'ensemble des professionnels de santé. On permet aujourd'hui en France, l'ensemble des professionnels de prescrire des substituts nicotiniques, donc aux infirmières, aux chirurgiens dentistes, aux masseurs kinésithérapeutes, aux médecins bien évidemment, et donc de pouvoir faire accéder les fumeurs à l'institution. Nous, ce qu'on préconise, c'est que les lieux de santé soient des modèles en termes d'abstinence de consommation de tabac, en termes de soins portés aux fumeurs, avec une démarche proactive envers tous les fumeurs, de proposition d'arrêt de la consommation ou de réduction de la consommation si l'arrêt n'est pas envisageable dans un premier temps.
Pour les patients et les personnels de santé ?
Systématiquement, ouais, pour les patients et pour les professionnels. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de se dire que les lieux de santé doivent être totalement sans tabac. Alors vous avez rappelé la loi. La loi déjà depuis 2006 interdit le tabagisme à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments des lieux de santé.
Absolument pas appliqué, parce que quand on va à l'hôpital, devant les portes, régulièrement, on voit des gens qui fument, y compris des gens avec des tubulures, avec des malades qui sont visiblement en piteux état.
Voilà, la loi n'est pas forcément bien appliquée, et donc comme on n'est pas policier mais qu'on est plutôt donc agent de prévention, on va faire en sorte, vous disiez tout à l'heure, par une communication positive et par un accompagnement des professionnels, de leur donner cette capacité de pouvoir être en capacité de prendre en charge les fumeurs à travers des formations courtes. Hein. On n'a pas besoin d'être tabacologue pour pouvoir faire un conseil minimal en tabacologie. On a juste besoin d'avoir un petit peu de formation en tabacologie et de savoir comme ça initier l'engagement dans l'arrêt de la consommation de tabac. Et puis à destination des patients, on va faire en sorte que tous les patients fumeurs et toutes les personnes fumeuses se présentant dans un établissement de santé et reçoivent des soins nicotiniques, donc des soins tabagiques, dès leur arrivée à l'hôpital, dès leur arrivée dans le lieu de santé, cela pour améliorer considérablement les chances de succès ensuite.
Professeur Daniel Thomas, on connaît les méfaits du tabac pour les bébés à venir, pour lors de la grossesse. Est-ce qu'il y a systématiquement justement une forme de consultation tabacologie pour les femmes qui fument avec justement un conseil en termes de substitution? Et est-ce que ces substituts sont dangereux pour le bébé à venir?
Alors, les substituts peuvent être utilisés chez la femme enceinte. C'est pas ce qui est préconisé en première intention. La première intention, bien sûr, c'est d'essayer de le faire sans, éventuellement. Mais ils peuvent être utilisés et c'est mieux que de rester fumeuse. Ça, c'est indiscutable. Donc, il faut savoir cela et donc ne pas craindre d'utiliser ces produits lorsqu'ils sont nécessaires pour l'arrêt du tabac pendant la grossesse ou avant la grossesse. Donc, il faut souligner l'importance, vous l'avez dit, des méfaits du tabac chez la femme enceinte, pour elle-même, pour son bébé à venir, et pour son bébé même dans le devenir, puisqu'on sait qu'être fumeuse lorsqu'on est enceinte peut avoir des répercussions sur les enfants et sur la façon dont les enfants vont évoluer dans l'avenir et pas seulement pendant la grossesse. Donc c'est vraiment fondamental et on sait qu'il y a encore beaucoup malheureusement de femmes enceintes qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, soit qui ne sont pas suffisamment motivées pour le faire. Et comme vous le soulignez, je pense qu'il devrait y avoir, et c'est malheureusement pas encore systématique, dans toutes les maternités et de la part de tous les obstétriciens gynécologues, une aide réelle à ces femmes pour qu'elles puissent arrêter de fumer dans les meilleures conditions. On entend trop souvent encore, oui, bon, vous fumez un paquet par jour, mais si vous en fumez 5, c'est bon, c'est quand même, c'est mieux, c'est pas mal, et puis d'abord, vous serez moins stressé. Donc ça, faut plus entendre ça, c'est absolument inacceptable. Il faut aider ces femmes à arrêter de fumer et y arriver avec elles. Et on doit pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement.
Docteur Nicolas Bonnet, on insistait tout à l'heure, là, on a parlé d'un groupe de population, les femmes, celles qui attendent particulièrement les bébés. Il y a les jeunes. On a vu l'industrie du tabac cibler certains publics, d'ailleurs comme l'alcool, cibler certains publics avec des cocktails pour les soirées, etc. Est-ce que les cigarettiers entretiennent volontairement une forme de désinformation ?
C'est parce que ça, les cigarettiers fournissent une vraie désinformation au public dans de nombreux pays. Ont inondé également la littérature scientifique pendant pas mal d'années, avec également en subventionnant des laboratoires de recherche qui ont produit des résultats qui ont permis d'immiscer un doute finalement sur la toxicité du tabac, sur le potentiel addictogène de la nicotine, etc. Donc pas mal de choses qui ont été mis comme ça progressivement dans la littérature et du coup dans la tête des soignants. Ça a été rappelé à l'instant. Du coup, ça a permis également le fait que des soignants aujourd'hui soient encore dubitatifs sur l'intérêt d'arrêter de la consommation de tabac pendant la grossesse ou sur l'intérêt de limiter la consommation de tabac chez certains types de populations, comme par exemple les personnes atteintes d'affections psychiatriques, où on voit encore le tabagisme encore beaucoup trop présent auprès de cette population, parce que les équipes soignantes, finalement, considèrent que le tabac peut être un élément favorisant la prise en charge ou réduisant certains symptômes. Tout ça, ce sont des messages qui ont été progressivement distillés, encore une fois, par l'industrie du tabac. Et actuellement, oui, ça continue. Ça continue notamment aussi par le placement du tabac dans certains films, certaines séries télévisées, où on le voit encore beaucoup trop fréquemment. Par certains artistes également, qui sont associés à certaines marques de tabagistes, mais aussi par une communication indirecte, comme par exemple Marlboro, qui a décliné une marque de vêtements et de chaussures, qui a pignon sur rue, et qui est une communication indirecte pour sa marque de cigarettes.
Alors, l'industrie du tabac, on l'a dit quand même, freinée par la législation dans des pays du Nord, qui cible plus que jamais les pays en développement. Ce sont pour ces cigarettiers de nouveaux marchés à conquérir. Et on constate justement un engouement toujours plus massif dans les pays du Sud, même s'il y a eu des lois, comme par exemple au Tchad, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Maurice, pour restreindre, pour interdire le tabac dans les lieux publics. Mais l'OMS le dit, l'Afrique est très en retard dans la lutte contre le tabagisme, manque de prévention, publicité agressive, on parle du sponsoring, c'est publicité pour des événements sportifs et même des événements politiques. Et on va tout de suite s'arrêter sur le cas du Burkina Faso. Avec vous, docteur Georges Ouédraogo, bonjour.
Et bonjour madame.
Vous êtes pneumologue, tabacologue au centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo de Ouagadougou. Quel est aujourd'hui l'état de la législation au Burkina Faso en matière de tabagisme?
Alors, en matière de tabagisme, il y a déjà, depuis 2010, il y a la loi numéro 40 qui a été donc adoptée. Et actuellement, il y a des décrets d'application qui sont en train d'être adoptés et d'être appliqués sur le terrain. Mais nous sommes à la difficulté justement de respecter cette loi qui réglemente la commercialisation, la production et l'importation et la consommation du tabac.
Est-ce qu'il y a justement de la consommation dans les lieux publics? Est-ce qu'il y a des contraventions ou c'est le laisser-faire qui prédomine?
Non, il y a des contraventions. Normalement, une personne qui fume dans un endroit interdit est passible donc d'une amende de 15 000 francs CFA, normalement. Et si elle récidive, on peut donc l'interpeller beaucoup plus violemment. Mais cela n'est pas appliqué du tout.
Ben c'est bien ça, vous dites normalement, mais dans les faits, c'est différent.
Oui, c'est assez difficile un peu l'application et c'est là-dessus que nous sommes en train de faire le plaidoyer pour voir comment les autorités peuvent, avec la société civile, faire quelque chose dans ce sens pour mieux appliquer la loi.
Alors, docteur Georges Ouédraogo, vous êtes pneumologue. Quelles sont les pathologies les plus courantes liées à la cigarette que vous traitez?
Alors, j'ai été personnellement surpris dans le centre de sevrage tabagique. Nous avons vu que c'est surtout l'hypertension artérielle qui a été retrouvée dans presque 40% des patients. Notre filtre, les patients que nous suivons ici sont environ 185 depuis le mois de mai 2017. Et ensuite, maintenant, viennent les bronchopneumopathies chroniques obstructives et aussi les accidents vasculaires cérébraux que nous rencontrons. Donc, c'est l'appareil respiratoire et le cœur et les vaisseaux sanguins qui sont les plus touchés.
Alors, que vous disent ces patients? Pourquoi sont-ils venus vous voir? Qu'est-ce qui les a conduits à vouloir arrêter de fumer?
Alors, c'est le plus souvent, ils ont été référés par le médecin dans 25%. Mais c'est vrai que dans la majorité, ils viennent d'eux-mêmes, parce que nous avons essayé de faire une campagne d'information ciblant donc tout le public, et que ce centre est disponible pour aider ceux qui veulent vraiment être aidés dans leur décision d'arrêter de fumer. Donc la majorité, ils viennent d'eux-mêmes, mais les médecins prétendent aussi les orientent dans ce centre.
Alors justement, quels sont les traitements que vous leur proposez? Quelle méthode est-ce que vous préconisez?
Alors, nous allons aux méthodes non médicamenteuses, puisque nous essayons de les motiver et qu'ils puissent puiser en eux-mêmes, je dirais, des éléments motivationnels personnels et individuels pour pouvoir arrêter. Nous les accompagnons aussi sur le plan psychologique, mais depuis peu, nous avons quelques médicaments, les substituts nicotiniques notamment, pour aider vraiment ceux qui sont dépendants et qui veulent arrêter de fumer.
Une question très concrète, docteur Georges Ouédraogo. Quand on achète un substitut nicotinique, est-ce que ça coûte aussi cher que d'acheter un paquet de cigarettes?
Malheureusement, ça coûte plus cher que d'acheter un paquet de cigarettes. La simple plaquette de 15 gommes coûte déjà 3500 francs CFA, alors que le paquet coûte 500 francs CFA. Donc, c'est plus cher d'acheter les substituts que d'acheter donc une cigarette ou un paquet de cigarettes ici. D'autant plus que chez nous, les personnes peuvent acheter les cigarettes donc en détail à l'unité.
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire de la part des pouvoirs publics pour tenter d'obtenir une baisse des coûts de ces substituts, puisque c'est véritablement un enjeu de santé publique?
Exact, vous êtes en train de lire dans mes pensées. C'est pas plus tard qu'hier, nous étions en train d'échanger pour voir comment justement faire le plaidoyer auprès des autorités pour que les substituts soient accessible financièrement et géographiquement à la plupart donc des patients qui sont dans le besoin.
Merci beaucoup, docteur Georges Ouédraogo. Je rappelle que vous êtes pneumologue, tabacologue au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Il faut le dire, hein, en France, docteur Nicolas Bonnet, quand on entame justement une cure de sevrage, ces substituts peuvent être pris en charge par le système de santé français.
L'assurance maladie en France prend en charge à hauteur de 150 euros par an et par personne les substituts nicotiniques, ce qui correspond à peu près à 3 mois de traitement. tout cas c'est l'estimation qui en est faite. Ceci étant, on rejoint totalement ce que vous avez dit, les échanges qu'il y a eu là, c'est-à-dire que véritablement il faut un engagement des pouvoirs publics fort pour que tous ces traitements nicotiniques soient remboursés, pris en charge intégralement par l'assurance maladie comme les autres médicaments, et pour cela il faut vraiment que ces produits passent au remboursement, ce soit pas juste sur des prises en charge forfaitaires, notamment pour que ces traitements soient valorisés aussi auprès des fumeurs, auprès des publics, comme étant des médicaments efficaces pour lesquels il y a un engagement de l'État dans leur prise en charge.
Et tout de suite, un autre témoignage, c'est une auditrice qui est en ligne de Bangui, en République centrafricaine. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, je vis avec mon conjoint qui est fumeur depuis 10 ans. Et puis c'est très compliqué pour lui, surtout dans des situations de traite, il peut aller jusqu'à 10 cigarettes par jour. Alors qu'on a un enfant à bas âge, et étant enceinte moi-même, j'ai l'impression que j'inhale plus de fumée aussi. Donc je me dis que la maison aussi, indirectement, on consomme avec lui. Mais le problème, il est bien conscient des risques, des dangers de la cigarette, mais apparemment il est impuissant devant, il ne peut pas s'arrêter.
Est-ce qu'il a essayé de consulter, d'en parler par exemple à un médecin généraliste qui pourrait l'aiguiller sur certaines pistes ?
Oui, en France, il y a 2 ans, il prenait les cigarettes électroniques. Mais je crois que ça ne tenait pas, parce que quand il est revenu, ça a juste baissé un peu le nombre de cigarettes par jour. Mais après, quand il tombe dans des situations de stress, ça augmente.
Professeur Daniel Thomas, on voit là hein, le contexte qui compte. Certes, il y a l'entourage qui pourrait pousser à arrêter, mais en même temps, il y a la vie quotidienne. Et arrêter de fumer, c'est pour certaines personnes une véritable lutte.
Oui, bien sûr. Hein, cette dépendance est pour certains fumeurs extrêmement importante, et tellement importante que les produits de substitution sont nécessaires, ne serait-ce pour réussir bien sûr, mais également pour que cet arrêt se fasse dans le maximum de confort, parce que beaucoup d'échecs sont liés justement à cette difficulté et aux effets secondaires qui sont entraînés par l'arrêt brutal sans substitution. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Encore une fois, je pense que les fumeurs ont souvent l'idée que c'est leur volonté qui est en jeu et qu'ils doivent y arriver tout seuls et qu'ils vont y arriver tout seuls. Alors c'est bien qu'ils aient effectivement cette volonté, mais il faut que cette volonté elle soit s'appuie sur quelque chose. Et en l'occurrence, il ne faut pas qu'ils hésitent à demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide pour arrêter de fumer. Je veux dire que si vous êtes hypertendu ou si vous avez un diabète, vous allez demander à votre médecin de vous aider. Si vous êtes fumeur, ça n'a absolument aucune... Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, de la même façon, puisqu'on est avec un facteur qui peut vous rendre malade et dont les médecins doivent s'occuper. Donc je pense que c'est tout à fait licite et tout à fait normal. Et d'ailleurs, les médecins devront entendre beaucoup plus souvent des patients leur demander « Docteur, aidez-moi à arrêter de fumer ». De la même façon que si on constate qu'ils ont une hypertension, on va les aider. Ou s'ils ont un diabète, ou s'ils ont un cholestérol élevé, on va les aider. Pourquoi ne les aide-t-on pas quand ils sont fumeurs ?
Docteur Nicolas Bonnet, vous vouliez réagir ?
Oui, deux points très rapidement. Le premier, c'est que Sandrine nous a rappelé que son conjoint fume pour diminuer son stress. Je voudrais juste rappeler, enfin, ce qui nous paraît important, je pense, c'est de dire que on est le fumeur en situation de stress ou d'anxiété parce que le manque de nicotine amène un stress ou une anxiété et qu'en fait, le fumer ne déstresse pas. Hein, fumer ne vient juste que compenser le manque de nicotine qui lui amenait de l'anxiété. Donc le tabagisme et la nicotine est avant tout un produit psychostimulant, donc un stimulant et pas du tout un produit anxiolytique. La deuxième chose, pour renforcer ce que dit le professeur Thomas, c'est saturer avant tout la personne en nicotine. Véritablement, on dit même se gaver en nicotine. Il faut que la personne, au début de son arrêt de la consommation, soit vraiment saturée totalement en nicotine. Quitte à en prendre trop, il n'y a aucun risque à être surdosé en nicotine. Par contre, le sous-dosage en nicotine est un facteur de risque majeur de reconsommation de tabac derrière.
Une question importante, c'est justement, on a parlé de l'explosion du tabac en Afrique, le marketing des cigarettiers auprès des populations les plus démunies, la question de l'inégalité face au risque du tabac, on constate, ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on arrête de fumer, et il y a derrière, par exemple en France, la question de la politique du tabac, il y a un vrai débat là-dessus, de dire finalement, si on augmente le prix du tabac, eh bien, ça va pénaliser les plus pauvres. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation, professeur Daniel Thomas?
Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que celui qui n'a pas de limite de moyens, l'augmentation du prix du tabac ne va pas avoir beaucoup d'effet sur lui. Et donc, l'idée, et c'était démontré dans les études, c'est que ce sont quand même les gens qui sont avec de plus de difficultés financières que cette augmentation de prix va avoir un effet.
Il y a une polémique là-dessus.
La problématique, c'est exact que ceux qui sont vraiment dépendants et qui ne sont pas dans une démarche d'arrêt vont, pour continuer à fumer, prendre de l'argent sur d'autres besoins quotidiens. Et donc, cela va créer une vraie inégalité sociale et peut-être effectivement des méfaits collatéraux chez les plus démunis. Cela veut dire également, c'est que notre démarche, lorsque l'on veut aider les fumeurs à arrêter de fumer, doit s'orienter plus spécifiquement justement sur ces populations qui sont souvent difficiles à atteindre, difficiles à contacter, et donc il faut arriver à les amener dans ces structures. Et ces gens-là sont aussi capables que les autres d'arrêter de fumer s'ils sont dans les bonnes conditions pour le faire et s'ils sont aidés pour le faire. Donc ce qu'il faut, c'est orienter l'aide aux fumeurs de façon plus spécifique vers ces populations les plus défavorisées.
Et c'est justement aussi une des préconisations de l'OMS, ce sera notre conclusion. Docteur Nicolas Bonnet, à terme, un paquet de cigarettes en France, 10 euros fin 2020, est-ce que cela aura une incidence sur le nombre de fumeurs ?
Le prix de la cigarette est un facteur limitant considérable de la consommation, donc finalement il faut augmenter les taxes sur les cigarettes, il faut que le paquet de cigarettes soit même plus au-delà de 10 euros, 10, 15 euros, genre comme en Angleterre, comme en Australie, comme en Amérique du Nord, dans différents pays qui ont pris des mesures radicales pour limiter la consommation de tabac. L'élément financier, l'élément prix du paquet de cigarettes est très important quand il est accompagné, comme c'était rappelé très justement, par des mesures également d'accompagnement et de prise en charge des personnes, notamment les plus défavorisées, pour les accompagner vers l'arrêt de la consommation.
On a les chiffres du tabagisme, est-ce qu'on a aussi des chiffres de ces accompagnements à l'arrêt du tabac ? Est-ce que ces traitements sont en hausse ?
Alors, les chiffres de la consommation de traitement sont également en hausse. Elles sont en hausse favorisées par Mois sans tabac depuis un an maintenant. Du coup, grâce à cette communication qui a eu lieu autour du mois de novembre l'an dernier, il y a une augmentation des demandes de prise en charge auprès de l'assurance maladie. Nous, encore une fois, on plaide pour qu'il y ait une prise en charge systématique et continue de l'ensemble des traitements nicotiniques et également des autres traitements d'accompagnement du tabagisme pour l'ensemble des fumeurs le plus rapidement possible.
Merci beaucoup. On va voir dans un instant que tabac et sport ne font pas bon ménage. Novembre, mois sans tabac, on en parle aussi avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, hein, on l'a bien compris pendant cette émission, le tabac c'est nocif pour la santé. Le sport, lui, c'est bénéfique pour la santé. Vous nous l'expliquez chaque semaine, docteur Sen, dans vos chroniques. Alors, est-ce que le sport permet de compenser les effets négatifs, les effets néfastes du tabac ?
Eh bien, Caroline, le sport, en fait, permet de compenser que partiellement les effets néfastes du tabac. Donc, c'est bien sûr essentiel de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer lorsqu'on fait du sport. Parce que les effets négatifs de la cigarette sont connus. C'est une diminution des capacités respiratoires. C'est par une altération des muqueuses, le manque d'oxygénation. C'est aussi une diminution des performances musculaires. Et l'autre problème qui peut être lié au tabagisme, c'est justement la baisse de l'endurance, de la vitesse, de la force. Et il ne faut pas oublier également que le tabac augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Alors donc, le fumeur réduit potentiellement son espérance de vie de 15 ans par rapport à un autre fumeur. Donc on peut véritablement dire que là, le sport ne réduit que partiellement tout cela.
Alors on l'a compris pendant l'émission, arrêter de fumer, c'est pas toujours facile, loin de là. Et il y a des conséquences qui ne sont pas toujours agréables. Quand on arrête de fumer, est-ce que vous pouvez nous les citer, docteur Jean-Marc Sen ?
À premier titre, évidemment, c'est les dépendances physiques, psychologiques que nous avons vues et qui sont difficiles à dépasser. Et puis, une des conséquences fréquentes, justement, c'est la prise de poids. Parce que il y a l'arrêt de l'effet anorexigène du tabac et puis le retour des sensations gustatives qui apparaissent et qui permettent justement de manger un peu plus. Et le sport devient un atout, justement, parce que faire du sport permet justement, lorsqu'on arrête de fumer, d'éviter de prendre du poids. Alors, il y a d'autres bienfaits. Dès 20 minutes, la pression sanguine, dès 20 minutes d'arrêt de la dernière cigarette, la pression sanguine diminue, la fréquence cardiaque également redevient normale, Un à neuf mois après, on est moins essoufflé. Un an après, le risque cardiaque lié au tabac diminue. Et jusqu'à 15 ans après, l'espérance de vie devient presque identique à une personne qui n'a jamais fumé.
Alors, quel conseil, docteur Sen, sur l'activité physique peut-on donner aux personnes qui, justement, voudraient arrêter de fumer?
Le premier conseil, c'est d'être motivé, évidemment. Et puis surtout, de jamais fumer dans l'heure qui précède ni les deux heures qui suivent une pratique sportive, ça augmente un petit peu le risque de problématiques cardiaques liées à cette prise de cigarette. Il faut pratiquer une activité physique va permettre de limiter justement la consommation du tabac et optimise les résultats d'une cure anti-tabac. Tout ça, c'est bien montré. Et puis, bien sûr, le fait de pratiquer va permettre de maintenir l'aptitude cardiaque à l'effort et d'entretenir les capacités respiratoires. Donc, bref, la pratique d'activité physique ne doit pas servir d'alibi pour continuer de fumer, et ça n'empêche en aucun cas la survenue d'une maladie grave et par notamment le cancer du poumon. Donc, à la place de sortir fumer, par exemple, une cigarette sur le lieu de travail avec ses collègues, le mieux c'est de bouger, de réaliser un petit tour de pâté de maison.
Merci docteur Jean-Marc Sen, conseil plein de bon sens. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos invités en studio, professeur Daniel Thomas, cardiologue porte-parole de la Société francophone de tabacologie, docteur Nicolas Bonnet, pharmacien spécialisé en santé publique et en addictologie. Demain, dans Priorité Santé, vous retrouverez le docteur Catherine Solano, sexologue, émission pour savoir décrypter les sentiments. Et vous pouvez bien sûr nous appeler.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.